Vous êtes sur RTL.
On refait le sport sur RTL.
Avec le Parisien, aujourd'hui en France.
Isabelle Langer.
Avec une tête et but. But de Boli, Basile Boli.
Voilà, maintenant que c'est fait, on est vachement heureux.
C'est une forme d'aboutissement.
Ah bah là, pour moi, oui. J'espère que vous êtes tous contents.
C'était le 26 mai 1993. L'Olympique de Marseille remportait la Coupe aux grandes oreilles. Bernard Tapie était plus que fier que l'OM soit le premier club français à devenir champion d'Europe. Nous allons continuer à lui rendre hommage dans cette demi-heure dont refait le sport. Nous parlerons notamment de Bernard Tapie avec Christophe Boucher qui lui a succédé à la tête de l'OM, mais aussi Pascal Praud. Tapie était arrivé dans le monde du sport par le cyclisme au milieu des années 80. Philippe Crépel, le manager de son équipe La Vie Claire, sera avec nous. Et pour m'accompagner ce soir, Benoît Lallemand, le patron des sports du Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
J'imagine que vous préparez déjà la une de demain.
Oui, alors elle était prête parce qu'on ne peut pas dire que c'est vraiment une surprise hélas. Et avec une particularité, c'est qu'il était l'un des rares personnages à toucher à peu près tous les services du Parisien. De la politique à la culture en passant par les sports, les faits divers, l'économie. Donc voilà, il y aura un numéro spécial sur Bernard Tapie. Demain matin dans les kiosques.
Bernard Tapie qui n'aurait pas aimé la défaite ce soir de son club, l'OM à Lille. Les Phocéens se sont inclinés 2-0. Bonsoir Samuel Duhamel.
Bonsoir Isabelle.
Le stade Pierre-Mauroy a rendu hommage à Bernard Tapie.
Oui Isabelle, on a ressenti beaucoup d'émotions avant le match. Pas de minute de silence, mais un court texte d'hommage lu au public 10 minutes avant le coup d'envoi avec une photo de Bernard Tapie diffusée sur les écrans géants du stade. Le nom de Bernard Tapie a été scandé quelques secondes et puis les joueurs de l'OM qui portaient évidemment un brassard noir en hommage à celui qui a été président du club de 86 à 93. Alors beaucoup d'émotions dans le stade, même si rappelons-le, les supporters marseillais étaient interdits de déplacement, mais les fans lillois que l'on a croisés étaient eux aussi touchés par la disparition d'un dirigeant qui a durablement marqué l'histoire du foot français.
Merci beaucoup Samuel Duhamel. Quentin Vasselin, bonsoir.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
La surprise de jour de cette 9e journée de Ligue 1, c'est la première défaite de la saison pour le PSG.
Oui, ça Bernard Tapie l'aurait peut-être apprécié. Revers du Paris Saint-Germain après 8 victoires consécutives, défaite 2-0 à Rennes, Gaëtan Laborde et Flavien Tay sont les bourreaux parisiens. Le PSG reste quand même leader avec 6 points d'avance sur Lens. Dans les autres matchs, Monaco confirme son regain de forme, victoire 3-0 contre Bordeaux grâce à des buts de Tchouaméni, Golovin et Ben Yedder. Nantes l'emporte 2-0 contre 3. Les buteurs Giroto et Ludovic Blas sur penalty. Lorient ne fait pas mieux que 1 partout contre Clermont. Enfin, Angers bat Metz à l'issue d'un match fou. Victoire finale 3-2 des Angevins alors qu'ils ont été menés 2 fois dans ce match. C'est Stéphane Bauken qui libère les siens dans le temps additionnel.
À 20h45, ne manquez pas le derby entre Saint-Etienne et Lyon. À suivre dans RTL Foot dès 20h. Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi rendront aussi hommage à Bernard Tapie.
RTL.
On refait le sport avec Le Parisien aujourd'hui en France.
Ce que vous entendez, mesdames et messieurs, ce sont les cris de joie et de soulagement de Sonny Colbrelli. L'Italien a remporté sa première grande classique aujourd'hui dans des conditions plus qu'extrêmes. La classique du Nord, Paris-Roubaix, de la pluie, de la boue, des rebondissements. 20 ans que nous n'avions pas eu de la pluie dans l'enfer du Nord. Et c'est donc Sonny Colbrelli, l'Italien, qui l'emporte au sprint devant Florian Vermeersch et Mathieu Van Der Poel. À l'arrivée, tous les coureurs étaient remplis de boue. Un Paris-Roubaix dantesque, 903 jours après la dernière édition. En tennis, Gaël Monfils s'est incliné contre Jannik Sinner en finale à Sofia, défaite en 2-7, 6-3, 6-4. WRC, Rallye de Finlande, victoire Delphine Evans. Sébastien Ogier termine 5e. À 2 rallyes de la fin, Ogier est toujours en tête avec 24 points d'avance sur Evans. Enfin, ce soir, Grand Prix d'Austin en MotoGP. Quartararo peut se rapprocher du titre mondial. Ça part à 21h.
Merci Quentin.
RTL.
On refait le sport avec Le Parisien aujourd'hui en France.
L'émotion.
Communicative, il était tout. Chaque fois qu'il arrivait le jour des matchs, il savait trouver les mots pour nous motiver, pour nous faire gagner. Et ce titre de champion, évidemment, d'Europe, c'est lui qui nous a porté pour avoir ce titre-là. Mais c'était un homme, moi j'étais en admiration devant lui.
C'était l'émotion de Jean-Marc Ferreri ce matin sur notre antenne. Le consultant du groupe M6 était de la finale de l'OM en 1993, même s'il ne l'a pas joué. L'Olympique de Marseille et Bernard Tapie, c'était une grande histoire d'amour. Et pour en parler avec nous ce soir, Christophe Boucher. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Ancien journaliste, ancien maire de Tours, vous avez surtout succédé à Bernard Tapie à la tête de l'Olympique de Marseille et écrit 3 biographies sur lui. Est-ce qu'on peut dire, Christophe, que Bernard Tapie a décomplexé le football français ?
Assurément oui. Assurément oui. Le football français a connu un point d'inflexion en 93 et 94 d'ailleurs. Et 93, c'est la victoire. C'est la victoire et ça permet au football français de voir les choses différemment, de voir la vie différemment. Et ensuite, il y a eu 94 avec Claret Bosman, qui est aussi un deuxième tremblement de terre dans le football français. Et ce qui va et l'histoire qui va s'écrire après, faire en sorte que on dit à jamais les premiers. Et c'est vrai que l'OM pourrait rester longtemps le premier parce que 94 et Claret Bosman a créé une fracture dans le football français qui était énorme. Peut-être que d'ailleurs que Tapie, faut pas réécrire l'histoire, mais n'aurait pas réussi à faire ce qu'il a fait après 94. D'ailleurs, quand il est revenu entre 2001 et 2002, il était relativement perdu puisque qu'est-ce qu'il pouvait faire? Prendre des joueurs de deuxième zone, j'allais dire, enfin pas de premier choix en tous les cas, sans être offensant pour ces joueurs-là. Et donc c'était compliqué. Mais vous avez raison, c'est décomplexé. Je veux dire, le football français était complexé. Il y avait cette affaire de Saint-Étienne en 76. Il y avait les Allemands et les Néerlandais qui gagnaient en permanence. Je veux dire, en fait, il y avait une espèce de plus personne n'y croyait. Et donc 93, et d'ailleurs les joueurs de 98 l'ont bien expliqué, plusieurs d'entre eux, que la victoire de 98 avait été semée en 1993.
Pascal Praud, bonsoir.
Bonsoir.
Bernard Tapie, c'était un personnage hors norme.
Oui, c'est évidemment. Et cette phrase « Tapie est mort » me paraît une phrase folle. S'il y a quelqu'un que je n'imagine pas les paupières closes, inerte sur un lit et peut-être bientôt enterré, c'est bien Bernard Tapie.
C'est-à-dire il est immortel.
En tout cas, il va rester beaucoup dans le cœur des Marseillais. Mais on ne l'imagine pas mort, tellement son énergie, son électricité, l'intensité qu'il donnait à la vie sont incompatibles avec la mort. Et moi, ce que je retiens de Tapie, tout le monde dit la même chose depuis ce matin, le combattant, le guerrier, l'homme aux multiples vies, tout ça est vrai. Mais il y a une vraie différence entre ceux qui le connaissaient physiquement, qui connaissaient sa voix, qui, entre guillemets, s'étaient coltiné la bête, si j'ose dire, et ceux qui en parlent en l'ayant vu à la télévision. Et le rapport de force qu'il mettait, notamment avec les hommes, parce que c'était un mâle alpha, ce rapport de force et parfois de crainte qu'il mettait immédiatement dans le rapport avec un homme, était saisissant et font de lui un être tout à fait à part.
Benoît Lallemand.
Oui, alors, j'ai pas eu la chance de le connaître physiquement, comme le disait Pascal, mais après, c'est vrai que pour l'avoir suivi de loin, on peut être qu'impressionné par ce qu'il a réussi, impressionné aussi par le combat qu'il menait depuis des mois contre une maladie dont il savait que il en sortirait perdant, et c'est peut-être un des rares combats qu'il ait perdu dont il savait qu'il pouvait que le perdre. Mais moi j'ai une question, c'est décomplexer le foot, comment à votre avis Christophe a-t-il décomplexé le foot français?
En gagnant par la victoire. Oui. Alors, j'entends bien le sous-texte de la question, c'est par quel moyen arriver à la victoire.
Notamment oui. Alors après,
non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris la question. Par quel moyen? Tapie était un pragmatique. Quand on dit la décomplexer, d'abord, c'était un prêcheur et pas un saint. C'est-à-dire, il faut pas confondre. C'est-à-dire que il a décomplexé le football français, comme il a décomplexé, même si son bilan économique était relativement mince, mine de rien. En revanche, il a décomplexé des dizaines de milliers de personnes à l'entrepreneuriat. Tapie, c'était la personne qui
c'était un gagneur,
qui suscitait les choses, qui voulait faire susciter les choses. Alors après, il est arrivé dans un milieu, le football, où depuis des années et des années, différentes nations, différents clubs avaient des méthodes qui étaient pas les bonnes. Je crois que Tapie l'a compris assez vite. Moi, j'ai vécu quelques matchs à côté de Bernard Tapie quand j'étais journaliste, notamment pendant l'affaire VAOM, et puis après quand je suis arrivé à l'OM. Tapie en permanence cherchait ce qui clochait. Il cherchait ce qui clochait. Et ce qui clochait, souvent, c'est il cherchait quel joueur avait été acheté. Donc, il avait un rapport au foot qui était particulier, parce qu'il adorait ce sport-là. Mais il savait que les dés avaient été pipés. C'est la fameuse phrase que tout le monde recite de Benfica. Mais cette phrase-là, elle en dit long, parce qu'elle est vraie, parce qu'il a bien compris qu'il y avait beaucoup de choses qui clochaient. Alors après, comment il s'en est servi, lui? C'est peut-être pas le jour. Et en tous les cas, il y a eu VAOM qui a été jugé. On le sait. Mais oui, je comprends le sous-texte de la question. Néanmoins, c'est lui qui a décomplexé le foot français. Voilà. Et c'est comme dans l'entreprise, si vous faites le bilan des entreprises Beratapi, on va mettre de côté l'affaire Crédit Lyonnais Adidas parce que je crois qu'il s'est fait avoir de façon spectaculaire. Les autres, le bilan est assez faible. Il a commencé en même temps que François Pinault, Bernard Arnault, vous voyez bien les réussites des uns et des autres et la sienne. Mais à aucun moment, ni Pinault, ni Arnault, ni d'autres n'ont suscité autant. Et lui, son pouvoir, Tapie avait quelque chose en plus, ce que Pascal a dit par ailleurs quand dans la relation personnelle, qui pouvait être très forte. Moi, j'avais une relation, comme fut d'un temps Pascal, plutôt mauvaise. Et c'est vrai qu'il avait une façon, en quelques millisecondes, de mettre une pression, de mettre les choses en pression.
Il y a quelque chose de l'ordre du laser chez Tapie. C'est-à-dire que vous le voyez, et par une alchimie étonnante, il sait qui vous êtes. Rapidement. C'est un mélange d'intuition, d'intelligence, d'expérience, où il vous cible immédiatement. Et vous sentez que le rapport de force ne sera pas en votre faveur, parce que c'est un mâle alpha. C'est un chef, effectivement. Et ou vous fonctionnez avec lui, ou vous vous opposez. Si vous vous opposez, à mon avis, ça va être très compliqué. Donc cette force de conviction, pour répondre à la question de Benoît, qui dit comment il a décomplexé en parlant dans un vestiaire. Et il pouvait parler, c'est ça la force de Tapie, très rare, il peut parler à Jean-Pierre Papin et à François Mitterrand. C'est pas si fréquent de pouvoir parler à des gens aussi différents les uns des autres. C'est-à-dire qu'il peut parler au peuple, et il le fait lorsqu'il est candidat quasiment à la mairie de Marseille, mais avec la liste MRG qu'il aura et qui mettra en difficulté Rocard en 94. Il parle aux gens dans la rue, et il parle aux élites, même si les élites parfois ne le regardaient pas comme il aurait aimé qu'il soit regardé. Donc ça, c'est assez rare. Et puis, il y a une personnalité médiatique. Vous parlez tout à l'heure des grands patrons. Généralement, ils se planquent, les grands patrons. Ils n'ont pas envie d'apparaître. Aujourd'hui, vous ne les voyez pas à la télévision. Bon, les grands patrons, le grand patron qu'il était, fait une émission Ambition. Il est beau. Il a un charme. C'est Alain Delon quand même, quand il a 40 ans, il est d'une beauté très. C'est important, ce caractère-là, physique, qu'il a, on le voit dans une émission célèbre, Véronique et David.
On en parlera à la fin de l'émission, elle sera avec nous, Véronique.
Bon, mais oui, mais parce que ça participe. Moi, je me souviens, c'est une déflagration, Tapie, dans les années 80. C'est un spectacle aussi. Il y a des émissions dont on se souvient. Il fait un soir une émission avec Guillaume Durand. Il lui explique que, Guillaume, ce jour-là, tu as pris, je vais dire que tu as mis ton nez dans la coke, etc. Il le scotche comme ça. Il prend Le Pen pareil. C'est une bête médiatique. Il lui dit attention, je vais me lever et je vais vous frapper. Vous me faites rire. Bon, personne ne faisait ça. Donc il est transgressif. Personne ne parlait comme lui avant lui. Donc il y a quelque chose de nouveau, effectivement, avec du charisme. Et puis comme il gagne derrière, c'est un cocktail, effectivement, qui aura marqué nos années.
Et même si vous dites ce n'est pas le jour, l'affaire VAOM restera quand même sa part d'ombre dans sa vie.
Sa part d'ombre, non. L'affaire VAOM, pour lui, c'est une erreur d'analyse. C'est une erreur d'analyse et c'est l'erreur d'analyse de la personnalité, finalement, du procureur de la République de Valenciennes, alors, qui sort de tous les codes, lui aussi. Et Tapie se trompe. Se trompe lourdement, complètement, en allant essayer de convaincre le procureur.
Et Montgolfier, donc, oui.
Et est-ce qu'Éric Montgolfier disait, dans l'affaire VOM, ce qui le fait tomber finalement, c'est vraisemblablement les témoignages des uns et des autres, mais surtout la subordination de témoins. C'est ce que tout le temps Éric de Montgolfier a dit, c'est comment deux ministres ont arrangé un coup ensemble, peu importe finalement le fond de l'affaire, comment deux ministres ont arrangé un mensonge entre eux. Enfin, ça c'était inacceptable sur le plan moral. Ce qu'on n'a pas dit par ailleurs, parce que l'affaire VOM, mais ce qu'on n'a pas dit beaucoup dans cette journée, j'ai écouté beaucoup de radio, beaucoup de télé, c'est comment Tapie vivait avec l'establishment, ce qu'on appelle l'establishment, c'est-à-dire ce mélange de hautes fonctions publiques et d'entrepreneurs, et comment tous ces gens-là ont tout fait pendant très longtemps pour le freiner, et ce que ça a dit de la société française pendant ces 30 dernières années. Ça, il faudra quand même s'y pencher, parce que si la société aujourd'hui est bloquée au point qu'on connaît, c'est aussi parce qu'elle a bloqué des gens comme Tapie. Parce qu'ils ont été nombreux sur son dos. Hein. Et donc, c'est aussi pour ça. Et ça, je pense qu'il faut la revisiter, parce que pour moi, Tapie, c'est vraiment une vie française. Et qu'il va falloir regarder au moins sur les 30 dernières années pour savoir ce qu'elle nous dit de ce que la France a été toutes ces années-là.
Merci beaucoup Christophe Boucher, merci Pascal Pro. On vous retrouve à 20h avec Eric Silvestro dans RTL Foot pour parler encore de Bernard Tapie. Une petite pause et on se retrouve dans un instant pour continuer cet hommage à l'homme et le cyclisme.
RTL, on refait le sport
avec le Parisien, aujourd'hui en France. On refait le sport sur RTL. Avec le Parisien, aujourd'hui en France, Isabelle Langer.
Quand j'étais le voir, on lui a proposé une équipe. Il lui a dit « Ok, mais une seule condition, c'est que tu me fasses ce qu'on appelle une pédale automatique, donc une pédale de sécurité. » Et je dis « Ok, on va relever le défi. » Le souvenir, c'est que d'un homme qui venait nous voir quand on était en course, il prenait du temps pour nous, il partageait nos repas, il était vraiment avec nous dans l'équipe. Il voulait toujours être de l'avant, toujours être le premier. Et je pense que ça a été toute sa force tout au long de sa vie.
L'hommage de Bernard Hinault à Bernard Tapie ce matin sur RTL. Dans les années 80, l'homme d'affaires perce le monde du sport grâce au cyclisme. Il crée son équipe, la Vie Claire, dont les icônes étaient Bernard Hinault et Greg LeMond, vainqueurs du Tour de France respectivement en 85 et 86. Bonsoir Philippe Crépel.
Bonsoir.
Vous étiez le manager de l'équipe La Vie Claire. Racontez-nous cette formidable aventure.
Écoutez, j'étais sur les fonds baptismaux de cette équipe, qui est née de toutes pièces. Grâce évidemment, comme vous l'a dit Bernard Hinault, à cette rencontre avec Bernard Tapie. Bernard Tapie était quasiment pas connu dans le monde du sport et encore moins dans le monde du cyclisme, qui était à l'époque un monde très traditionnel. Donc on a bousculé pas mal de choses, quoi. Grâce à Bernard Tapie, oui.
Christian Olivier, chef du service des sports, vous avez connu aussi cette époque?
Absolument. Bonsoir Philippe Crépel. Mais Crépel m'avait présenté le maillot futuriste aux couleurs de la peinture de Mondrian avec des couleurs très déstructurées dans les bureaux avenue Friedland de Bernard Tapie. Il avait déjà, Philippe Crépel, une vision futuriste du sport qu'il voulait embrasser avec ses deux champions.
Oui, bien sûr. Je pense que ces débuts ont bousculé un peu les traditions du cyclisme. Rappelons quand même que cette équipe avait été présentée au Crazy Horse, qui était une révolution pour l'époque.
C'est incroyable.
Et puis aussi, sur le plan technique, la pédale qui a été vraiment une révolution. Mais je reviens au maillot, parce que le maillot, en réalité, c'était l'époque d'un nouveau procédé qui apparaissait. C'est-à-dire que jusqu'à là, on tricotait. On cousait les maillots. Là, c'était de l'impression, de la sublimation. Et donc, cette équipe a bénéficié de cette nouvelle technique. Et grâce à cette nouvelle technique, nous avons pu un peu délirer. Et la styliste, je dis toujours que ce maillot est né sur une table devant la Bourse à Paris. Nous étions trois. Paul Koechly, le manager de technique de l'époque, un grand technicien. La styliste de chez Micmac, ça ne s'invente pas, une entreprise reprise par Bernard Tapie et moi-même. Et c'est là que nous est venue l'idée du Mondrian, qui est encore aujourd'hui intact, parce que ce maillot n'a aucune ride, il est toujours mode.
Benoît Lallemand.
Oui, bonsoir. À quel point c'était difficile ou facile d'être le manager d'une équipe propriété de Bernard Tapie? À quel point il était présent et omniprésent peut-être?
Moi, je pense que j'ai écouté bien Bernard Hinault. Bernard a tout résumé. Bernard Tapie n'a pas fait les choses à moitié. Il faisait jamais les choses à moitié. C'était un gagneur, un battant, et ça transpirait complètement sur la vie de l'équipe. Il faut rappeler aussi que à cette époque, il y avait beaucoup d'équipes de smicards. Le vélo vivait petitement. Et depuis cette époque-là, depuis l'époque de la Vie Claire, eh bien, tout le monde a gagné sa vie. Il faut lui rendre hommage, parce qu'il a bousculé aussi. Le mot smicard n'a plus existé, quoi, dans le vélo.
Et puis on remarquera l'image forte de l'Alpe d'Huez 86, c'est l'image de Greg LeMond. Et vous l'avez vécu, évidemment, Philippe Crépel. Greg LeMond, Bernard Hinault arrivant main dans la main, car il fallait laisser gagner à l'étape Bernard Hinault, mais sur le Tour en 86, Greg LeMond. Et ce qu'avait réussi à faire en 85 Bernard Hinault. Il en fallait pour tout le monde, mais voyez-vous, et vous n'allez pas me contredire, Philippe Crépel, il avait déjà peut-être, Bernard Tapie, des visées sur le marché américain en laissant gagner Greg LeMond.
Oh, il les a eu bien avant, en fin 84, lorsque que Laurent Fignon gagne ce Tour de France 84. Déjà, LeMond était chassé un peu, et il a été donc il était transféré dans cette équipe La Vicaire, et Steve Bauer aussi, hein, qui était un Canadien, quand même un excellent coureur. Donc, à la limite, il fallait déjà, pour l'année 85, renforcer sur le plan international cette équipe La Vicaire.
Merci beaucoup, Philippe Crépel.
Merci, Philippe.
Merci à vous.
Merci, Olivier.
RTL, on refait le sport avec le Parisien, aujourd'hui en France.
Actuellement, on vient seulement depuis 2 heures de reprendre enfin des vents qui sont dignes du bateau, puisque supérieurs à 20 nœuds. On n'a pas viré de bord. Bon, on commence effectivement, nous aussi, à s'étalonner sur les records de Malinowski, de Pajot, etc.
Bernard Tapie était aussi un homme qui aimait les défis. Par 2 fois, il a tenté de battre le record de la traversée de l'Atlantique avec son yacht, le Phocéa. La première a été un échec, mais celle de juin 88 est la bonne. À bord, il y avait 15 de personnes, dont Jean-Paul Jaud, chargé à l'époque de filmer pour TF1 cette épopée. Bonsoir Jean-Paul Jaud.
Bonsoir, on prononce le D. Hein,
ah, Jaud, il me l'a dit Pascal Praud pourtant avant. Hein. Donc je vais le dire, Jean-Paul Jaud, excusez-moi, quelle aventure cette traversée de l'Atlantique !
Inoubliable.
Racontez-nous.
Inoubliable parce que, d'abord parce que depuis ce matin, effectivement, je reçois des appels, on me dit comment tu vas, et tu connaissais Bernard et tout, très bien, oui. J'ai dit on a failli mourir ensemble plusieurs fois. Oui, cette traversée a été une grande réussite et quelque chose de très courageux et quelque chose d'incroyable, tout ça mené par Bernard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, la première fois, on est parti, bien sûr, de
New York,
de Pier 17, pour après partir au large. Et la première journée, on a bien démarré, on partait à 20 nœuds, et dans la nuit, le vent est tombé, donc on a été obligé de faire demi-tour. Voilà. Et puis, on est revenu 3 semaines après, quasiment, oui, 3 semaines, 1 mois après, cette fois pour repartir directement. Enfin, cette fois-ci, on a eu plus que du vent. On a eu une tempête terrible. Voilà.
Benoît,
avec
alors, vous... On est d'abord parti. Donc on a très bien marché à 20 nœuds quand on est parti de la côte américaine. On allait bien sûr vers le nord, vers Terre-Neuve. Et le vent est tombé. Et qu'est-ce qu'on a eu? De la neige. Et on a passé pendant presque 2 jours à regarder s'il n'y avait pas d'iceberg, des trucs comme ça. Et puis finalement, la tempête est arrivée. Notre guideur nous avait dit, notre routeur nous avait dit, je vous envoie dans un endroit où vous allez tous pleurer votre maman. Et donc, on a eu des tempêtes incroyables. Et le Phocéa s'est couché 5 fois. 5 fois, donc un bateau de 75 mètres de long, des mâts, 4 mâts de 40 mètres, 35 mètres. Et c'était l'apocalypse. Voilà.
Mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était le plus grand yacht à voile du monde.
Absolument.
Avec déjà l'idée que tout ça soit filmé, puisque vous étiez à bord avec cette mission-là, donc.
Et puis alors, ce qu'il y avait aussi filmé, mais c'est que Bernard avait dit, je laisse tout sur le Phocéa, c'est-à-dire je laisse les tableaux.
Hein, les tableaux de Magritte, les commodes Louis XV, les porcelaines.
Voilà. Je laisse, c'est-à-dire qu'on pesait... On pesait 375 tonnes et en réalité, on partait pour battre le record de Charlie Barr de 1905 qui avait ses traversées d'Atlantique Nord en 12 jours et quelques heures. Et en réalité, Bernard avait décidé que en réalité, c'était pour battre le record absolu de l'Atlantique Nord qui était détenu par Poupon. Et
Vous l'avez battu finalement ce record, Jean-Paul Jaud.
De 4 jours. Hein.
Oui, de 4 jours. Mais moi, ce que je veux, j'ai lu, c'est la seule fois où vous avez vu Bernard Tapie pleurer.
Oui, effectivement, c'est-à-dire quand on a, quand d'abord je l'ai vu à la fin, on a failli battre ce record de Poupon, mais on a été pris au piège par la neige au départ. Et puis, par la suite, on a failli le battre de deux jours, un truc comme ça, mais c'était rien du tout. Bon. Et alors, pourquoi c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu Bernard, parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui, et c'est la seule fois, c'est-à-dire quand on est arrivé à Saint-Malo, on a été accompagné, bien sûr, par les bateaux, voiliers, moteurs et tout. Et pour aller se mettre à quai à Saint-Malo, il faut franchir.
Il y avait beaucoup de monde en fait qui vous attendait. C'était une véritable ovation.
Il faut franchir des écluses pour aller sur le bassin d'accueil. Et à chaque écluse, il y avait des marins pêcheurs et des Bretons, des assez âgés, des anciens marins qui chantaient tous en l'honneur de Fosséa et de Bernard Tapie des chansons de marine. Et c'était très émouvant. Et c'est la seule fois où j'ai vu Bernard pleurer.
Merci.
Et je dois vous dire aussi une chose, c'est qu'il est aussi célèbre en Angleterre par la Navy. Il y avait un bateau de la Navy qui était là et tout l'équipage était au garde à vous avec le salut sur le bassin de Saint-Malo pour accueillir le faussaire.
Merci beaucoup Jean-Paul Jaude d'avoir été avec nous ce soir.
RTL, on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France.
Vous reconnaissez, Benoît, cette petite musique ? Le fameux générique de Gym Tonic, émission culte des années 80, présentée par Véronique et Davina. Avant le confinement et les séances de sport en visio, hein, chaque dimanche, la blonde et la brune faisaient faire du sport aux femmes, mais pas que, à la maison, devant leur télévision. Alors on est le 17 juin 1984, et ce jour-là, elles reçoivent un certain Bernard Tapie. Bonsoir Véronique de Villèle.
Bonsoir.
Cette émission au cours de laquelle vous avez reçu l'homme d'affaires reste l'un des moments phares quand même.
Ah, c'était extraordinaire. C'est un des plus beaux souvenirs de télé que j'ai gardé. Il était fabuleux. D'abord, il faut se souvenir que c'était un très grand sportif. Très grand sportif. Je l'ai souvent dit, mais je vous le redis à votre antenne. Quand il est arrivé sur le plateau pour notre tournage.
Marcel Orange et Sudisette Verte, hein, on le précise quand même.
Voilà. Qui était des vêtements. Quand il est arrivé en training gris ou bleu marine, et il a dit, mais je ne peux pas t'habiller comme vous. Il a dit, si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais franchement, il était incroyable. Il a fait toute l'émission avec nous. Et moi, j'ai une admiration sans borne pour lui. D'abord, il était beau comme un dieu. Il était sportif. Tout ce qu'il touchait réussissait, que ce soit le vélo. Moi, il nous a fait une rencontre avec Bernard Hinault. C'était exceptionnel. Le bateau qu'il a fait avec son fosséa était inouï. Et puis, cette énergie incroyable. C'est un modèle, un exemple. Et je garde un souvenir absolument incroyable de lui. Je rappelle qu'il a une femme à ses côtés qui est une de mes amies et qui est formidable, qui s'appelle Dominique. Et voilà, donc c'est une grosse perte, je trouve. D'abord, c'est très jeune, 78 ans. Il s'est battu comme un dingue, comme un guerrier. Et puis, ben voilà, son cancer l'a emporté. C'est très, 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 très triste.
Merci beaucoup Véronique pour cet hommage à Bernard Tapie. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Benoît Lallemand, j'imagine que les jeux sport du Parisien demain, aujourd'hui en France, eh bien, seront consacrés à Bernard Tapie notamment.
Évidemment, on racontera dans les pages sport les vies sportives de Bernard Tapie, elles sont nombreuses. Et puis on expliquera aussi, on tentera d'expliquer comment Paris a pu perdre à Rennes, et on reviendra sur cette incroyable édition de Paris-Roubaix, ces images un peu folles d'hommes debout.
Merci beaucoup Benoît. Le Parisien retrouvé dès 23h30 pour les abonnés numériques. Dans un instant, vous retrouvez tous les garçons pour un nouvel hommage à Bernard Tapie dans RTL Foot, sans oublier le derby Saint-Étienne-Lyon.
RTL, on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui.